Bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons continuer l'étude du premier livre des rois, qui a été déjà bien amorcé le dimanche précédent, avec donc cette portion du chapitre 9, verset 10, jusqu'à la fin du chapitre 11. 11, verset 43. Vous pouvez prendre vos Bibles. Pardon. Moi, je dirais dans la traduction Osterwald. Bien se distinguer d'une façon ou d'une autre. Je m'excuse déjà pour ce titre un peu provocateur. Faut-il sauver le roi Salomon ? Ce titre vient en fait d'un article historique qui est assez peu connu de l'historien Marc Bloch, qui a écrit en 1925 un article sur tout un débat qui a agité l'Église chrétienne au Moyen-Âge, mais déjà bien avant, déjà du temps des pères de l'Église, un débat sur le sort post-mortem de Salomon. Est-ce que Salomon a été sauvé ou non ? Faut-il sauver le roi Salomon ? Alors ça peut nous sembler étonnant, et ça a étonné Marc Bloch au point qu'il a écrit cet article qui est assez peu connu, mais qui est vraiment très court et assez intéressant, où il retrace toute l'histoire de ce débat, dans la perspective de mieux comprendre les mentalités religieuses. Alors, en particulier, il isole deux légendes médiévales, à une époque où la monarchie française essaye d'utiliser la figure de Salomon pour mieux se valoriser, pour mieux montrer la gloire royale. Marc Bloch isole deux légendes médiévales qui s'opposent. La première est assez intéressante, ce sont deux pèlerins qui voyagent quelque part dans le désert du Sinaï, deux pèlerins anglais, et qui arrivent à quelques kilomètres du paradis terrestre, qui est donc situé bord de l'Euphrate, comme chacun sait. Et ils arrivent dans un château et ils découvrent un Salomon isolé, seul, un petit peu comme sur la slide précédente, voilà, au milieu de son château, et qui leur dit, voilà, le paradis est juste là, moi je ne peux pas encore y aller, je dois faire pénitence pour mes péchés. Donc, ce qui signifie qu'il a quand même encore un espoir d'aller un jour jouir des bienfaits du paradis terrestre. Dans une autre légende, donc toujours dans ce même article de Marc Bloch, un Parisien se perd quelque part en Écosse, n'essayez pas de comprendre pourquoi, il espère trouver la sagesse, et il tombe sur Salomon à nouveau, isolé à nouveau, mais cette fois-ci attaché à une pierre et dévoré par des milliers de corbeaux. Et il comprend, en échangeant avec un interlocuteur qui passait, que le roi Salomon est damné, et donc ne pourra donc jamais aller au paradis. Donc deux légendes intéressantes qui montrent deux façons différentes de voir le salut possible ou non de Salomon. Et au même moment, donc au Moyen-Âge, on a un peu plus tard donc Dante dans la Divine Comédie qui place Salomon directement au paradis, donc qui le sauve quelque part, et des cantiques catholiques, des hymnes catholiques qui présentent un Salomon glorieux, qui montre à Jésus, son diadème, qui porte la couronne de Jésus. Donc il y a un débat, il y a un dilemme sur qu'est-il advenu de Salomon après sa mort, va-t-il être sauvé ? Alors, si ce débat existe, c'est parce que le récit de Salomon, la vie de Salomon, nous pose un gros problème. Il y a un véritable embarras qui naît du récit de la vie de Salomon dans les Écritures, en particulier dans les rois. Alors pourquoi c'est embarrassant ? Parce que le roi le plus sage du monde, l'homme le plus sage du monde, la Bible nous le présente ainsi, mais c'est aussi un souverain qui a eu une vie, une fin de vie calamiteuse, désastreuse. Un souverain qui a mis son plaisir, et en particulier son plaisir sensuel, au cœur de sa vie quotidienne. C'est un ami de Dieu, donc il est l'auteur de nombreux textes bibliques qui sont inspirés. Dieu lui apparaît d'ailleurs, on l'a vu dans les présentations précédentes, plusieurs fois, directement, donc c'est quelqu'un qui bénéficie de l'intimité de Dieu. Et pourtant, c'est un souverain idolâtre, un souverain qui va finir par adorer des idoles et des dieux qui sont des abominations pour Dieu lui-même. Autre problème, on a souvent vu dans l'histoire de l'Église Salomon comme une figure typique de Jésus, notamment Salomon en gloire. Et dans l'histoire de l'art en particulier, représenter Salomon, le souverain qui juge et le souverain glorieux, ça peut être une façon aussi d'anticiper un autre souverain glorieux qui est Jésus en gloire. Sauf que La fin de notre passage aujourd'hui nous montre un Salomon qui est retranché des promesses divines, avec une sanction très dure qui est attribuée avec la division du royaume dont on a déjà parlé. Donc il y a un scandale de l'histoire de Salomon, et il me semble qu'il faut quand même avoir bien ça en tête, que cette histoire est scandaleuse, qu'elle est dramatique, et que, quelque part, ce drame-là parle un petit peu de notre scandale à nous, c'est à savoir le péché qui habite en nous et qui sommes pourtant des créatures de Dieu. Alors dans les chapitres qui nous concernent, la structure elle reflète un petit peu cette trajectoire contradictoire. Si vous prenez vos Bibles, donc on va démarrer avec le chapitre 9, verset 10, et jusqu'à la fin du chapitre 10, on a le tableau lumineux, avec quelques indices inquiétants, de la gloire royale. Et de ces versets 10 du chapitre 9 jusqu'à la fin du chapitre 10, c'est une abondance de biens, une abondance de gloire, avec comme épisode pivot la visite de la reine éthiopienne, la reine de Sheba, sur laquelle on va s'éterniser un peu plus longtemps ce matin. Et puis il y a une rupture au chapitre 11. Au chapitre 11, on tombe sur, deux salles de ambiance, le tableau crépusculaire d'une fin de règne, où on voit un Salomon idolâtre, le cœur détourné par l'idolâtrie, et comme pivot, au verset 9 du chapitre 11, l'indignation de Dieu. Dieu indigné, et donc toute une série de conséquences, avec notamment le fait que Dieu suscite un certain nombre d'ennemis à Salomon, des ennemis extérieurs et des ennemis intérieurs, qui annoncent une succession compliquée, une succession tumultueuse. Donc on a bien un récit un peu schizophrène, comme ça, je m'excuse pour l'utilisation de ce terme pathologique, mais voilà, un récit qui hésite entre la gloire radicale et puis la débauche radicale, entre le triomphe et la ruine. Et ça, quelque part, ça a un petit peu contaminé notre imaginaire, parce qu'on a associé à Salomon un certain nombre de légendes avec lesquelles il faudra vraiment composer avec prudence, et je pense que la meilleure prudence est de rester sur ce que dit le texte, plutôt que d'imaginer tout ce que Salomon a pu faire, dire, toutes les légendes qui l'entourent. Et puis, ça aussi, ça travaille une fibre chez nous qui aime bien aussi ces histoires-là, donc il faut aussi se méfier de cette fascination pour la chute des puissants. On peut penser à des présidents de structures internationales qui vont terminer menottés devant les caméras, à d'autres présidents qui peuvent être incarcérés, mais enfin voilà, ce sont des choses qui quelque part, ça suscite chez nous une certaine fascination. Et l'histoire de Salomon peut fasciner. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que c'est une histoire triste. C'est un drame qui est terrible. Et donc l'idée ce matin, c'est d'essayer d'un petit peu de déconstruire un peu ce drame pour voir ce qui a pu provoquer justement cette trajectoire complexe. Alors, il y a deux indices dans le texte qui nous permettent d'explorer ce mystère central. Hein. Comment le plus sage de tous les hommes a-t-il pu tomber si bas ? Donc le texte met en avant deux coupables apparents, deux coupables un peu superficiels, mais sur lesquels on va revenir. La richesse, la prospérité démesurée de Salomon, premier axe. Et puis, deuxième axe, les femmes étrangères. Alors, je suis pour volontiers provocateur, c'est plus le désir démesuré de Salomon dont il est question. Donc j'ai envie de dire, puisqu'on est en présence d'un juge accusé, levez-vous. Nous allons suivre ces deux coupables en particulier, voir exactement s'ils expliquent la trajectoire de Salomon qui est aussi désastreuse. Donc premièrement, première question, est-ce que la richesse démesurée de Salomon a-t-elle bien précipité sa chute ? Deuxième question, les femmes étrangères sont-elles responsable de la ruine morale de Salomon, puisque le texte semble l'indiquer. Et puis enfin, qui est le vrai coupable ? Alors, je ne vous attendais pas des révélations absolument extraordinaires, mais j'adore enfoncer des portes ouvertes, mais vous allez voir qu'il y a des choses peut-être plus essentielles et plus substantielles qui nous permettront d'aller plus loin. Alors, je vais juste boire parce que là, je suis en train de ne plus respirer. Alors, je vous propose de commencer par la lecture du passage qui fait pivot dans le premier chapitre qui nous occupe, à savoir l'épisode de la visite de la reine éthiopienne. Donc, c'est au chapitre 10 et au début du chapitre, on va lire les 10-12 premiers versets. Donc, 1 roi, chapitre 10, premier verset. La reine de Sheba, ayant appris la renommée de Salomon à cause du nom de l'Éternel, vint l'éprouver par des questions obscures. Elle entra dans Jérusalem avec un fort grand train, avec des chameaux qui portaient des aromates et de l'or en grande quantité, et des pierres précieuses. Puis, étant venue vers Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle lui proposa. Il n'y eut rien que le roi n'entendit, et qu'il ne lui expliqua. Alors la reine de Sheba, voyant toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et les logements de ses serviteurs, l'ordre du service de ses officiers, leurs vêtements, ses échansons, les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle fut toute hors d'elle-même. Et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays, de ton état et de ta sagesse, est véritable. Je ne croyais point ce qu'on en disait, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux l'aient vu. Et voici, on ne m'en avait pas rapporté la moitié. Ta sagesse était bien, surpasse ce que j'avais appris par la renommée. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui écoutent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a eu pour agréable pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel a aimé Israël à toujours établir roi pour faire droit à justice. Et elle donna au roi 120 talents d'or et une très grande quantité d'aromates avec des pierres précieuses. Il ne vint jamais depuis une aussi grande abondance d'aromates que la reine de Sheba en donna au roi Salomon. La flotte de Hiram, qui avait apporté de l'or d'Ophir, apporta aussi du bois de santal en fort grande abondance et des pierres précieuses. Et de ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison éternelle et pour la maison royale, et des harpes, et des lyres pour les chantres. Il n'était point venu tant de bois de santal, et on n'en a point vu ainsi jusqu'à ce jour. Et le roi Salomon donna à la reine de Sheba tout ce qu'il eut pu de demander, outre ce qu'il lui donna comme le roi Salomon pouvait donner. Et elle reprit le chemin de son pays, avec ses serviteurs. Alors, une scène bien connue, un épisode bien connu, dont vous avez ici une illustration, donc, qui date du XVIIe siècle, et qui est une scène assez lumineuse. Et peut-être le premier point que j'aimerais développer, c'est cette idée que la reine éthiopienne, qui visite Salomon, découvre un royaume prospère, et quelque part, cette visite témoigne en elle-même de la prospérité du royaume. Alors, pour le prouver, j'aimerais déjà partir du point de départ de l'épisode, c'est-à-dire que ce qui fait que cette visite a lieu, c'est la renommée, c'est dit dans le texte à plusieurs reprises, la renommée de Salomon, la réputation. On suppose que cette réputation dépasse les frontières, les simples frontières qui sont en fait assez limitées du royaume salomonien, et que ce bruit s'est répandu au-delà de la simple Palestine actuelle. Alors, il y a une curiosité, il y a une admiration, mais derrière, il faut aussi imaginer que si cette visite est possible, c'est qu'il y a une stabilité régionale qui est marquée, qui est solide. Une stabilité diplomatique en particulier. Et on peut supposer, à l'écriture de ce texte, mais aussi avec d'autres indices ailleurs dans le passage qui nous occupe, que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que Salomon a construit un équilibre régional stable, permettant notamment ce genre de visite diplomatique. Donc des alliances solides avec, un peu plus tôt dans les rois, on voit une alliance avec Hiram qui est évoquée au verset 11, donc qui est le roi de Tyr, donc la Phénicie. Une alliance aussi avec l'Égypte sur laquelle on reviendra. Et puis tout un effort de militarisation derrière ces alliances qui explique la stabilité dont on parle actuellement. On le voit notamment dans le chapitre qui nous occupe au verset 22, où l'infanterie de Salomon est évoquée, où la marine pardon, de Salomon est évoquée, car le roi avait sur la mer une flotte de Tarsis, verset 22, avec la flotte de Hiram, et tous les trois ans, la flotte de Tarsis venait apportant de l'or, de l'argent, etc. On le voit aussi au verset 22 de ce même chapitre, au verset 26, pardon, de ce même chapitre, où il est question des cavaliers, des chars, de l'infanterie de Salomon qui s'élève à des milliers et des milliers. Alors, il faut prendre un peu de recul par rapport aux chiffres. Je voulais pas, on n'aura pas le temps ce matin, aborder la question de la réalité numérique des chiffres qui sont donnés, mais on est quand même sur des textes qui ont un objectif littéraire, à savoir glorifier un royaume et qui ont pu être instrumentalisés un peu plus tard pour des objectifs nationalistes. Donc il faut se méfier, d'autant plus que l'archéologie n'est pas si claire sur ce sujet. Mais ça peut être intéressant, on y reviendra un peu plus tard. Ce qui est important ici, c'est que quand la reine éthiopienne d'ailleurs, donc, ou yéménite, dans tous les cas, certainement pas avec ce look occidental que vous voyez ici, hein, pour une fois sur l'histoire de l'art et ses limites, vous avez ici quelque chose qui est quand même intéressant, c'est qu'elle arrive dans un royaume qui est devenu un acteur régional de premier plan et qui sert même d'intermédiaire avec les autres royaumes. Ça, on le voit au verset 29 de ce même chapitre. où, à la suite d'une alliance commerciale militaire avec l'Égypte, verset 28, hein, c'était d'Égypte que sortaient les chevaux de Salomon. On voit que des flux commerciaux et militaires se font aussi avec d'autres royaumes, et même en tirer par leurs moyens pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie. Donc, le royaume d'Israël devient un pivot régional. Et cette visite-là, du coup, ça devient une démonstration de force. Une démonstration de force qui démarre dans un contexte un peu particulier, puisque vous constaterez que ce qui anime la reine éthiopienne au début du passage, c'est presque une forme de rivalité. On le voit avec l'expression utilisée au verset 1, « La reine de Sheba vint l'éprouver par des questions obscures. » Et juste après, verset 2, « Elle entre dans Jérusalem avec un fort grand train, avec des chameaux, avec des aromates. » Donc il y a voilà, une forme de démonstration over the top de sa puissance pour impressionner ce roi dont elle a entendu parler. Et cet esprit de rivalité est complètement retourné par le spectacle auquel elle assiste, que ici l'artiste rend assez bien, donc des dorures, du marbre ici. Là encore, la réalité historique de ce genre de scène, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est autant impressionnée par la sagesse de Salomon que par l'opulence matérielle de son royaume. Et systématiquement dans le passage qu'on a lu, vous allez voir qu'il y a toujours un couple. C'est ta sagesse et l'état de ta maison. Ta sagesse et tes biens. Alors, là je vous le dis, mais il faudrait qu'on prenne les versets pour le voir. Ce qui est certain, c'est que il y a un lien direct que le texte fait entre la sagesse de Salomon, donc les décisions politiques qui ont été les siennes, les décisions de gestion qui ont été les siennes, et la réussite, le succès économique, politique, diplomatique, militaire de son royaume. Au passage, on n'en a pas parlé, mais le texte qu'on a lu, mais aussi les textes qui précèdent donc pour le chapitre 9, fourmillent de flux et de circulation incroyables. Il est question à plusieurs reprises de la flotte d'Iram, donc de la façon dont Salomon a développé une puissance maritime en s'appuyant sur les Phéniciens, que tout ça a généré des circuits commerciaux, des approvisionnements de ressources considérables, en particulier au verset 11, là vous avez vu la mention de la flotte d'Ophir, de l'île d'Ophir, en fait un lieu légendaire, on ne sait pas exactement où est-ce que ces ressources en or se trouvaient, elle s'est mentionnée plusieurs fois dans le texte, et ça a eu des effets désastreux, puisque les marins occidentaux, en particulier au XVIe siècle, se sont tous mis en tête d'aller trouver Ophir, alors tantôt c'était en Amérique du Sud, au Pérou, tantôt c'était aux îles Salomon, justement, donc en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc il y a une espèce de fascination légendaire autour de cette réussite commerciale. Les échanges commerciaux terrestres sont aussi mentionnés au verset 15 de ce même chapitre, hein, outre ce qui lui revenait des facteurs, des négociants et du commerce de détail de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Donc une visite qui devient une démonstration de force et qui témoigne d'une gloire à couper le souffle. Une gloire à couper le souffle, j'en veux pour preuve, cette expression sur laquelle je reviendrai, c'est cette réaction de la reine qui est incroyable au verset 5 du chapitre 10 à la fin. Elle fut toute hors d'elle-même, nous dit la traduction Esterval. Deux autres traductions disent elle en eut le souffle coupé. Il y a quelque chose d'époustouflant qui a lieu et qui est effectivement appuyé par tout le style du passage. Et je vous invite à considérer cette hyperbole permanente, ce langage hyperbolique, cette poétique de l'abondance qui traverse l'ensemble de la fin du chapitre 9 jusqu'à la fin du chapitre 10. Alors, par quoi ça se manifeste ? Ça se manifeste par l'abondance des matières premières qui sont mentionnées partout, des ressources pléthoriques. On a presque l'impression que l'auteur s'amuse à en rajouter en insistant sur les listes, et notamment le verset, les deux passages savoureux, verset 4 et verset 5, où elle voit la sagesse de Salomon, et ensuite, verset 5, une liste. Elle les met de sa table, les logements de ses serviteurs, l'ordre du service. Donc, il y a un effet d'accumulation que le texte nous renvoie, avec un goût du détail savoureux, par exemple les animaux exotiques du verset 22. La flotte venait apportant de l'or, de l'argent, aussi des dents d'éléphant, des singes, des paons. Donc il y a une abondance de biens, de richesses, qui se voit aussi dans les cadeaux démesurés qu'apporte la reine. On voit ça au verset 2, elle entra avec une grande quantité des pierres précieuses, auxquelles aboutissent d'autres cadeaux encore plus démesurés. Verset 10, il ne vint jamais depuis une aussi grande abondance d'aromates que la reine de Sheba. Et un peu plus loin, on a d'autres, au verset 25, Et chacun lui apportait chaque année son présent, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, encore des listes. Et on voit que la richesse appelle la richesse. Donc on se fait des cadeaux, comme on est très riche, on continue à se faire de très beaux cadeaux, et c'est un cycle comme ça qui se nourrit lui-même. Et le ton est excessif aussi, hein. Regardez la saturation permanente. Tout le monde est dans la démesure, et l'auteur en rajoute. L'auteur commence par dire « on n'en a point vu ici jusqu'à ce jour ». Il n'en valait jamais une aussi grande importance d'aromates, une si grande abondance d'aromates. Et puis entre eux, même les personnages, ils se parlent sans mesure. Elle lui dit tout. Il n'y eut rien que le roi n'entendit. Et au verset 13, pareil. Au verset 13, et le roi Salomon donna à la reine de Sheba tout ce qu'il lui put demander. Donc il y a une outrance permanente, une démesure permanente, j'allais dire une esthétique de la saturation. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit pour l'auteur de mettre en scène la perfection royale. Il faut mettre en scène la perfection royale. Il faut que le débat soit clos, c'est comme un match de boxe entre la reine des Open qui arrive et Salomon, il faut que le plus puissant soit démontré. Mais tout ça, c'est-à-dire c'est très trivial, derrière il y a un objectif aussi théologique. Et au centre, il nous semble, de cette poétique de l'abondance, il y a ce qu'elle montre, à savoir la gloire de Dieu lui-même, puisque Dieu, au chapitre 3 du livre des Rois, avait promis à Salomon, tu me demandes la sagesse, très bien, tu auras tout le reste, tu auras la richesse et la gloire. Donc en fait, si Salomon est aussi parfait, c'est parce que Dieu est parfait. Et si Salomon est aussi riche, c'est parce que Dieu lui a promis. Donc derrière tout ça, vous avez la révélation de la gloire de Dieu. Et cette dimension comme ça de révélation, je la sens quand même de manière importante dans le passage où la reine reconnaît justement que la gloire vient de Dieu. Dans la construction de ce passage déjà, où elle vit une sorte d'épiphanie, « Je ne croyais point ce qu'on en disait, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux l'aient vu, et voici, on ne m'en avait pas rapporté la moitié. » C'est presque une révélation prophétique qui rappelle d'autres passages de l'Écriture. On pense à Job, hein, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » On pense à ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure, avec les apôtres, Thomas en particulier, hein, qui a besoin de voir. Donc il y a le même motif derrière ce passage, et en plus il y a cette expression « elle en eut le souffle coupé » au verset 5, « elle fut toute hors d'elle-même », qui a aussi une dimension presque prophétique, puisque c'est la même racine, d'après les hébraïsants, que la racine du mot « esprit », « esprit de Dieu ». Donc le souffle de Dieu, le souffle de la révélation, elle est stupéfaite devant la démonstration de la gloire divine. Donc la gloire de Salomon, c'est d'abord celle de Dieu. Et ça, je pense, c'est important de le rappeler avant de voir les problèmes potentiels qu'elle a pu poser, parce que le texte est construit dans cet esprit et avec cet objectif. Alors, pourtant, il y a dans le texte des indices inquiétants. Je ne vais pas forcément les approfondir, et puis ça prête à débat. Honnêtement, je ne suis pas sûr de tous, notamment parce que mes connaissances en économie sont limitées. Mais plusieurs indices inquiétants. Pour moi, il y a trois indices mineurs et un indice majeur. Et l'ensemble de ces indices nous invite à peut-être prendre un peu de recul par rapport à la trajectoire gloire et décadence, qui est pratique pour l'esprit gloire et décadence. En réalité, le texte laisse entendre que assez tôt dans le règne de Salomon, il y a des zones d'ombre et il y a des problèmes qui sont posés. Alors, un indice rapide au chapitre précédent, la question d'alliés qui peuvent être un peu déçus du comportement de Salomon. On voit que au verset 11 du chapitre 9, Hiram, roi de Tyr, donc le Hiram qui est plutôt fidèle, hein, qui fait vivre tout le commerce et la flotte maritime de Salomon, ayant fourni à Salomon du bois de cèdre, du bois de cyprès, donc chapitre 9, verset 10, verset 11, pardon, reçoit 20 villes de Salomon. Et il n'est pas content. Il estime que ces villes ne sont pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Il voit les villes de Salomon, elles ne lui plurent point, et il dit « Quelle ville m'as-tu donné, mon frère ?» Et il les appela le pays de Kabul, comme rien. Donc, elles ont conservé jusqu'à ce jour. Donc, c'est un indice mineur, pour en faire plus que... Mais ça nous montre que derrière, le tableau n'est pas si rose, peut-être, que l'image qu'on en a, notamment dans les relations diplomatiques. Autre indice, peut-être plus fort, c'est que tout ça a un coût. Ces palais, ces royaumes... Salomon est présenté comme un bâtisseur, et très souvent, dans le texte, c'est marqué « il bâtit, il bâtit, il bâtit ». Alors, on l'imagine avec sa truelle en train de construire le temple. Ah non, c'est le peuple qui supporte ces grands chantiers. Alors quand je dis qu'il supporte, je le dis de manière fondée sur des passages de ce même livre. On voit qu'il y a toute une population étrangère qui habite le royaume d'Israël, au verset 20 du chapitre, verset 20 du chapitre 9, tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Hétiens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens qui n'étaient point des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient demeurés après au pays que les enfants d'Israël n'avaient pu vouer à l'interdit, Salomon les leva comme serfs de corvée. Donc il y a un système de servage qui concerne en priorité les habitants du royaume qui sont étrangers. Donc on peut supposer qu'il y a un certain nombre de pénibilités qui sont liées à ce statut. Alors, le texte hésite sur la question du peuple. Est-ce que le peuple d'Israël a lui-même été soumis à des corvées ? Oui. La réponse est oui, même si on voit qu'il y en a un certain nombre qui font partie du commandement. Quand on regarde au chapitre 5, l'ensemble des grands travaux qui sont menés par Salomon, on voit que des milliers de personnes participent à la taille des pierres, participent au grand chantier. Et autre indice qui va dans ce sens-là, ce sont les révoltes de la fin du règne de Salomon qui sont évoquées au chapitre 12, où il est question, justement par les successeurs du coup de Salomon, Jéroboam et Roboam, du joug pesant, de la domination pesante qui reposait sur le peuple qui travaillait pour le roi. Il est même question des fouets. Quand il y a un débat entre Roboam et Jéroboam sur la souffrance qu'il faut faire endurer, la dureté du règne, il est question du fouet qui pesait sur les épaules, le fouet du père, donc le fouet de Salomon. D'ailleurs, au passage, Jéroboam est suscité et rencontre le prophète Akija au moment de la construction de Milo, qui arrive après une corvée exceptionnelle et qui est justement assez tôt dans le règne de Salomon, en fait. Donc on peut imaginer, même si je me garderai bien de faire des conclusions trop figées, on peut imaginer quand même que tout ça pesait lourd sur les travailleurs. Alors, autre indice, c'est la question de l'usage de la richesse. Quel usage Salomon a-t-il fait de la richesse ? Alors là, je ne vais pas forcément approfondir dans le détail, parce que ça demanderait peut-être plus de travail de recherche, mais il y a quand même, à un moment donné, un indice d'un marché peut-être déséquilibré. À deux reprises, au chapitre 10, il est question de l'argent qui n'a plus de valeur dans le royaume salomonien. Alors, il y a une ambiguïté, est-ce qu'on ne considérait pas l'argent avec la même valeur qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a trop d'argent qui circule et du coup, il n'y a plus de valeur ? Il y a notamment dans le Mali subsaharien, un roi comme ça, le Kanga Moussa, qui au moment de son pèlerinage à la Mecque, fait circuler tellement d'or et d'argent que l'or et l'argent n'ont plus de valeur et que ça crée tout un tas de problèmes économiques. Donc, ça peut être un indice intéressant. Après, surtout, il y a la façon dont la richesse est réinvestie. C'est-à-dire que ce qui ressort du passage, c'est que c'est réinvesti de plus en plus dans du stock, du luxe, de l'apparat. Est-ce qu'il vaut mieux, en économie, là, je demande aux gens compétents, investir dans le flux ou dans le stock ? Je ne sais pas. Mais quelque chose me dit que la vaisselle en or du verset 21 et tous les vases à boire du roi de Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de forêt était d'or pur, etc. C'est peut-être pas ce qui a réglé les problèmes de vie quotidienne des gens. Il est question de 3 mines d'or pour des boucliers, par exemple. Au verset, c'est les versets qui concernent les boucliers, c'est les versets 16 à 17. Le roi Salomon fait aussi 200 boucliers d'or et un peu plus loin, et 300 boucliers plus petits d'or battu, employant 3 mines d'or pour chaque bouclier. Donc faites le compte des mines d'or que cela mobilise hein, pour faire des boucliers qui termineront dans la maison royale. Alors, le trône aussi, c'est un bon exemple, il est question d'un trône, mais c'est un exemple qui pose un gros problème aux théologiens, c'est que c'est pratique pour parler de Salomon comme préfiguration de Christ en gloire quand on le voit construire son trône, verset 18, hein, le roi fit aussi un grand trône d'ivoire qui couvrit d'or fin. Ce trône avait 6 degrés, etc. Donc il y a toute une légende sur le trône de Salomon qui serait animé de mécanismes. Le roi de Perse serait monté dessus, aurait été projeté par un mécanisme que Salomon avait prévu. Donc je ne rentre pas là-dedans, même si c'est savoureux. Le problème qui se pose, c'est est-ce que c'est le signe, quelque part, d'une préfiguration de la gloire de Christ qui aura son trône dans les temps derniers ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est le signe d'un orgueil démesuré d'une créature qui se prend pour le créateur ? Aussi. J'ai tendance à penser que ça peut être les deux, finalement. C'est-à-dire qu'on peut en avoir une interprétation théologique, on peut en avoir une interprétation morale. Les deux fonctionnent et sont cohérentes avec le reste de l'Écriture, et c'est le plus important. Mais surtout, l'indice majeur, ça c'est des indices mineurs, l'indice majeur qui nous montre que Salomon a peut-être fait un peu fausse route, c'est le lien avec un passage du Deutéronome qu'on va lire maintenant, chapitre 17, verset 14, donc dans la loi de Moïse. Il est question de ce que doit faire un roi quand il sera placé sur Israël. Donc je lis ce passage, Deutéronome chapitre 17. Quand tu seras rentré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et que tu le posséderas, et y demeurera, si tu dis, j'établirai un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu ne manqueras pas d'établir pour roi celui que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Jusque-là, tout va bien. Je passe un peu. Seulement, ce roi ne se procurera point, un grand nombre de chevaux. Il ne ramènera point le peuple en Égypte, afin d'augmenter le nombre de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Il ne prendra pas non plus un grand nombre de femmes, de peur que son cœur ne se détourne. Il ne s'amassera pas non plus beaucoup d'argent et d'or. Et je pense que Salomon connaissait le Deutéronome. C'est mon hypothèse. Or, quand vous lisez au chapitre 9, toujours, que nous dit le verset 28, chapitre 10, pardon, le verset 28 du chapitre 10 dans les rois, c'était d'Égypte que sortaient les chevaux de Salomon. Donc, Salomon a fait des alliances économiques et militaires avec l'Égypte contre les préconisations de la loi de Moïse. Je passe sur les femmes, je passe sur la quantité considérable et démesurée d'argent et d'or qui a été accumulée. Et les deux passages, mis côte à côte, alors il faudrait voir si c'est pas artificiel, mais sont quand même assez édifiants sur peut-être la fausse route que Salomon a pu emprunter. Peut-être que le problème de Salomon est d'avoir été un roi un peu trop comme les autres, qu'il aurait pu être un roi différent. On a vu les succès diplomatiques, militaires, économiques, cette réussite qui émerveille la reine éthiopienne et qui est une bénédiction de Dieu. Je ne remets pas du tout ça en question. Il a eu tout ce qui avait été promis, il l'a eu. Par contre, comment il l'a géré? Est-ce qu'il a su mettre de la mesure dans cette abondance de bénédiction? C'est là où le problème se pose. Il a été un roi comme les autres, comme les empires dont on entendait parler à l'époque, les empires d'Assyrie, de Babylonie, qui sont tous, à l'époque affaiblis. Donc il a voulu peut-être, finalement, trop faire comme cette reine qui arrivait avec ses excès de richesse pour démontrer sa puissance. Et quelque part, on ne peut pas vraiment lui en vouloir, c'est les représentations de son temps. Et nous-mêmes, on peut avoir la même attente de nos dirigeants. C'est très fréquent qu'on a des discussions quand même sur le salaire des PDG. Il faudrait que tous les PDG aient des salaires démesurés, parce que quelque part, c'est un PDG, donc il faudrait qu'il soit très bien payé. Et puis le président, il ne faudrait pas qu'il soit trop normal. Il faudrait quand même qu'il ait du marbre, de l'or. Donc il y a quelque chose quand même dans la représentation du pouvoir, souvent d'ailleurs assez viriliste, qui nourrit peut-être cette dérive dans laquelle Salomon s'est engouffré. Donc une bénédiction, c'est un paradoxe terrifiant, mais une bénédiction qui a porté les ferments d'une chute, d'une faute, d'une erreur. Pourquoi? Parce que Salomon n'a peut-être pas mis assez de mesures, Salomon et son administration, parce qu'en fait on parle de Salomon, mais il y a tout un appareil, n'ont pas mis la mesure que Dieu aurait peut-être espéré que la sagesse, puisque les deux sont liés, lui permette d'établir. Voilà pour notre première partie, je vais passer à la suite. Cette fois-ci, on va aller voir la question des femmes étrangères. Alors, ce sera peut-être un peu plus rapide. Je vous propose d'aller cette fois-ci au chapitre 10. Chapitre 11, pardon, et on va lire à partir du premier verset le passage terrible de la ruine morale de Salomon. Donc, chapitre 11 du livre des rois. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes et des Éthiennes. D'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, Deutéronome, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à ces nations par l'amour. Il eut donc pour femme 700 princesses, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu comme le cœur de David son père. Et Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniennes, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kemosh, l'idole abominable de Moab sur la montagne, et qui vis-à-vis de Jérusalem, et à Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Et l'Éternel fut indigné contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait même donné ce commandement exprès de ne point suivre d'autres dieux, mais il n'observa point ce que l'Éternel lui avait commandé. Et s'ensuit le discours de Dieu, donc la troisième intervention, avec l'annonce des sanctions contre Salomon. Donc un passage terrible, crépusculaire, le même peintre, c'est vrai que je parlais de salles d'ambiance, le même peintre qui a représenté Salomon en gloire tout à l'heure, vous le présente ici, en train d'adorer des idoles, on discutera de la représentation plus tard, vous voyez que la scène est ici crépusculaire, alors qu'elle était lumineuse dans le tableau d'avant, donc on voit les deux facettes de la vie de Salomon. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le texte nous pose quand même un problème majeur sur le rapport de Salomon aux femmes particulières, des femmes issues d'autres peuples. C'est ce qui est pointé du doigt au début du chapitre. Le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, elles détournèrent son cœur. Alors, j'aimerais tout de suite faire un pas de côté. Le titre est volontairement provocateur. Est-ce que le problème, ce sont les femmes étrangères? Est-ce que le problème, c'est les désirs et le cœur de Salomon? Je le dis comme je le pense, le problème, c'est le désir et le cœur de Salomon. C'est la façon dont il a convoité des personnes qui, probablement la plupart, étaient très jeunes, ont été embarquées dans son harem pour des raisons politiques et probablement aussi sexuelles. Alors, ma voisine de 97 ans, elle résume les choses, elle dit « Ah, bah, Salomon, il ne s'est pas ennuyé ». Clairement, quand on voit l'accumulation compulsive de liaisons officielles et des concubines derrière, on voit la même insistance sur l'accumulation qui apparaît dans le texte précédent, sur la richesse, c'est-à-dire que l'auteur insiste sur les quantités, sur le nombre. Et cette approche quantitative, elle nous conduit à penser quand même si je ne développerai pas, qu'il y avait quelque chose dans le désir de Salomon, dans la recherche de plaisir de Salomon. C'est quand même légèrement appuyé dans certaines traductions, c'est pas le cas de toutes, dans la traduction Chouraki, pour le verset 2 du chapitre 11, Salomon s'attacha à ses nations par l'amour. Chouraki traduit, il colle à ses nations par l'amour, il colle, il y a quelque chose de presque corporel, physique, qui peut s'imaginer être dans le texte. Je ne veux pas en faire tout un plat, mais c'est quand même sensible, et je pense que ce serait faux de s'imaginer que c'est seulement politique. Pour autant, attention à l'épouvantail sexuel, c'est-à-dire que c'est pratique de mettre l'accent que sur ça, alors que peut-être que derrière, il y a des choses structurelles plus importantes et aussi problématiques. Derrière les désirs de Salomon, derrière l'histoire des convoitises, il y a aussi une pratique royale courante à l'époque, et on en revient à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que Salomon a voulu faire comme les autres rois. Plus le harem était impressionnant, développé, plus tu étais puissant dans la société de cette époque. Plus c'est un signe de force, de puissance, de virilité importante. Donc il y a quelque chose qui est une pratique royale que peut-être, que certainement Dieu ne voulait pas voir dans un royaume inspiré par sa loi. Ensuite, il y a aussi un pragmatisme politique, c'est-à-dire que le texte nous dit à plusieurs reprises qu'il y avait plein de populations étrangères sur place, qu'il y avait des jeux d'alliance avec des royaumes voisins, donc des mariages. Donc probablement que tout ça répond aussi à un contexte diplomatique de gestion d'une société cosmopolite où il faut faire avec l'ensemble des forces religieuses, culturelles en présence. On peut imaginer que derrière toutes ces femmes et ces concubines étrangères, il y avait aussi une gestion d'une population complexe et d'une diplomatie complexe, puisque les mariages répondent aussi à des enjeux diplomatiques. Alors, il y a un texte comme ça qui est quand même frappant, enfin, il y a un problème qui est quand même frappant, c'est la question du premier mariage. Le mariage avec la fille du pharaon qui intervient avant la fille du pharaon, son mariage intervient avant le don de la sagesse à Gabaon. Donc, c'est assez tôt dans son règne. Ah, moi, c'est mon hypothèse, chacun pensera ce qu'il en veut, mais je pense que le drame de Salomon s'est noué là, avec ce premier mariage, et je pense qu'il n'était clairement pas, surtout à la lecture du Deutéronome, dans l'esprit de ce que Dieu attendait. Alors, ce mariage, il contrevient donc directement à la loi de Moïse, et le texte laisse entendre que c'est le premier mariage qui engendre ensuite une lignée d'autres mariages avec d'autres populations, qui pose problème. On le voit avec cette expression, outre la fille du pharaon, qui est mentionnée au début du chapitre 11. Donc c'est la première mésalliance. Et c'est d'autant plus étonnant que l'Égypte est... Alors c'est pas si étonnant politiquement, mais quand on regarde le reste du texte, l'Égypte c'est vraiment la terre d'accueil de tous les ennemis de Salomon. Ils y sont tous passés. Le premier ennemi de Salomon qui est suscité par Dieu, c'est Hadad. Il va où? Il va en Égypte pour se réfugier après la mort de David. Il se marie même avec, je crois, une fille égyptienne. Et quelque part, il est dans le cercle familial par alliance de Salomon qui fait le choix de se marier lui aussi avec une fille égyptienne. Jéroboam lui-même, il va où? Il va en Égypte. Alors, Là, les partisans de la lecture typique ont un gros problème, parce que le voyage en Égypte et le mariage avec la fille de Pharaon, c'est précisément ce qui leur permet de dire « Regardez, c'est un peu Jésus, parce que il y a le voyage en Égypte comme Jésus au début de sa vie. » Bon, vous voyez bien que ça pose quand même des problèmes, cette histoire. Donc, la mésalliance vient peut-être aussi d'une stratégie politique qui a conduit Salomon à fauter par rapport à ce que Dieu avait prévu pour la royauté et pour le peuple d'Israël. Alors, est-ce que le problème, c'est qu'elles soient étrangères, ces femmes ? Ben non. Le problème, c'est pas la pureté du sang, et j'aimerais quand même insister là-dessus. Le problème, c'est l'idolâtrie. Le problème, c'est que Dieu avait averti son peuple que ces mariages étaient la porte ouverte à une infidélité religieuse. Alors, on le voit à travers plusieurs textes, on ne va pas forcément tous les lire. Bon, il y a le point de départ, c'est le décalogue, les 10 commandements. Tu n'adoreras point d'autre Dieu que Dieu lui-même. Dans Exode chapitre 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est le problème de l'incompatibilité de nature entre Dieu et l'ensemble des idoles qui peuvent être adorées par les populations diverses et variées. Dieu est saint, Dieu est pur, c'est un Dieu jaloux, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais ça tient aussi à la nature de l'alliance que Dieu a construite avec le peuple d'Israël. Donc il faut se placer dans les mentalités de l'Ancien Testament, à savoir une alliance exclusive. Exode 23, verset 31, « Tu ne traiteras point alliance avec eux, ni avec leur Dieu, ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et cela te serait un piège. » Et on renvoie à la façon dont les peuples étrangers ont été justement accueillis dans le royaume de Salomon, dans le cadre de l'Ancien Testament, et j'éviterai bien des prolongations contemporaines, dans le cadre de l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui était contraire à la logique tribale de séparation que Dieu avait voulu avec son peuple dans ce contexte précis. Et en particulier, il est question dans le Deutéronome du mariage et des relations amoureuses. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne t'allieras point, Deutéronome donc 7, tu ne t'allieras point par mariage avec elles, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance et les serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous, et il t'exterminerait promptement. Alors, cet avertissement particulier, il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une relation amoureuse entre deux individus. C'est un mariage, c'est une alliance à l'époque qui est aussi collective, donc c'est aussi la cohabitation d'un Dieu saint avec une culture qui va mettre une créature impure au même titre qu'un Dieu saint. C'est également un système de valeurs, une solidarité. On le voit d'ailleurs, hein, Salomon finit par avoir justement des liens très forts avec toutes ces nations. Et on voit que, quelque part, en prévenant ce problème par l'interdiction des relations amoureuses avec d'autres peuples, Dieu est parfaitement conscient de la fragilité de notre cœur et de sa capacité à être détourné par cette solidarité de fait qui naît d'un mariage ou d'un engagement amoureux. Alors, j'insiste et je fais quand même la nuance, hein. On est bien dans le cadre de l'Ancien Testament, donc dans un cadre d'une alliance spécifique, et l'ensemble de la parole de Dieu, y compris en convoquant des figures qui nous concernent là, autour de Salomon, apporte des contrepoints essentiels. Je vous renvoie à Rahab, je vous renvoie à Ruth, donc les femmes étrangères qui ont eu une part très importante dans l'histoire de la rédemption divine. Toutes ces personnes d'ailleurs ont un lien avec Jésus. Et la reine de Saba elle-même est évoquée dans le Nouveau Testament, on l'avait vu l'année dernière avec Luc, chapitre 11, comme un exemple pour les nations, un exemple pour les juifs, comme une figure des nations qui préfigure le salut pour tous et toutes, et pas simplement les rejetons du peuple d'Israël. Donc, il faut quand même toujours avoir cette perspective qui est sur le temps long. Dans le temps court de l'ancienne alliance, c'est contraire à l'interdit de Dieu, non pas parce que ce serait une loi raciste, c'est pas le cas du tout, mais parce que c'est pour prévenir l'idolâtrie, pour prévenir l'infidélité avec d'autres dieux. Dans le cadre du Nouveau Testament, on est sur un nouveau paradigme complet, où là, effectivement, toutes les nations, toutes les femmes étrangères ont leur place. Et les hommes, au passage. Voilà. Alors, ceci étant dit, il faut quand même qu'on dise quelques mots de l'indignité de Salomon. Alors, je ne vais pas trop développer ce point-là. Non pas parce que je commence à manquer de temps, mais quand même. Mais surtout parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas faire du dimanche matin le lieu quelque part d'un récit de choses qui seraient abominables. Donc je suis mal à l'aise avec l'idée d'entrer dans le détail sur la dignité de Salomon. Dieu est indigné et ça suffit, quelque part le texte parle en lui-même. Ce qui est important, c'est de voir que cette corruption a été progressive, hein, c'est pas juste une faute d'orgueil comme ça qui arrive. On voit dans le texte que ça s'installe dans le temps. On voit qu'il y a peut-être une nuance entre ce que Salomon a laissé faire, c'est-à-dire laisser des personnes adorer sur son territoire, et est-ce qu'il a participé activement ou non. Il y a dans tous les cas une progression puisque chronologique, hein, puisqu'au verset 4, il est question de il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes ne trouvaient son cœur, et son cœur ne fut pas intègre, et verset 5, et il suivit Astarté, il suivit, il y a son de démon. Donc, le texte laisse entendre quand même qu'il a participé. Attention cependant à toutes les légendes qui entourent la fin de règne de Salomon, roi magicien qui aurait développé des connaissances occultes. Bon, tout ça, c'est pas dans le texte. C'est pas dans le texte, on peut l'imaginer, ça peut intéresser, mais ce qui ressort du texte, c'est quand même qu'il a tout simplement désobéi à Dieu en laissant des idoles être adorées sur le territoire et qu'il a probablement lui-même participé activement à ces cultes-là. Et surtout derrière, qu'il a laissé faire un certain nombre de pratiques culturelles qui sont associées à ces cultes-là. Là-dessus, le texte n'en dit pas plus, mais on peut s'imaginer qu'en adorant l'idole là, qui porte bien son nom, Kemosh et Molech, entre autres, derrière, des pratiques culturelles existaient, et on le voit plus tard dans les rois, des sacrifices humains, notamment, peut-être aussi des pratiques de sorcellerie, des pratiques magiques, en tout cas des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Et cette abomination qu'il a laissé prospérer, voilà le fondement de l'indignité de Salomon. Et ça doit nous rendre plutôt tristes, ça, parce qu'on peut être fasciné par le côté magie. Non, c'est dramatique. Alors, qui est le vrai coupable ? Salomon, mais plus particulièrement le cœur dévié de Salomon. Là-dessus, je vais aller peut-être partir de cette expression qui intervient plusieurs fois dans le chapitre 11, ce cœur détourné, le cœur de Salomon. La faute de Salomon est particulièrement grave. Pourquoi ? Parce qu'il était le plus sage de son temps. Il avait eu l'exemple de son père David. Il était dans l'intimité de Dieu. Plusieurs fois, il lui apparaît directement plusieurs fois. Il est roi, donc il entraîne avec lui tout le peuple. Donc il a une responsabilité collective. Et le texte nous dit que malgré tout ça, verset 4, son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel. On peut le traduire différemment. Son cœur, il n'a pas aimé Dieu sans réserve, sans mesure. En fait, la démesure de Salomon, elle est allée sur d'autres choses que sur Dieu. Et ça rejoint le récit d'autres rois un peu plus tard, où il est écrit textuellement, ils n'ont pas aimé Dieu sans réserve. Avons-nous des réserves dans notre adoration ? Est-ce que on laisse vivre des abominations dans nos vies? Ça peut vraiment plonger. En préparant ce passage, je me suis moi-même été un peu ébranlé en me disant mais qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche d'être devant Dieu sans réserve? Et c'est là où on touche quelque chose qui est quand même très fort. Alors, il n'y a pas simplement la démesure, l'orgueil. Il y a quelque chose de plus profond hein, qui tient à la nature humaine, donc au péché de Salomon, au péché qui dévie le cœur. L'expression du texte nous laisse entendre que ce qui est à la racine, c'est le cœur de Salomon. Cœur détourné, cœur tendu vers autre chose que pour Dieu. Et c'est d'autant plus frappant que ce qu'avait demandé précisément Salomon à Dieu, c'est un cœur intelligent, un cœur, donc une volonté. Alors, le cœur, dans l'Ancien Testament, c'est vraiment le siège de la volonté, donc une volonté capable de bien juger, mais aussi capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est là où on voit le péché. C'est-à-dire qu'il sait ce qui est bien. Je pense que Salomon est lucide sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et malgré ça, il choisit le mal. Malgré ça. Et c'est là où il y a tout le scandale. Alors on peut y voir le travail de l'ennemi, puisqu'en fait celui qui est présent partout, mais absent, enfin qui est absent partout et visible nulle part ici, c'est le diable en fait, qui travaille sans doute derrière. Je ne m'étendrai pas sur le fait qu'il y a 666 talents au verset 24 qui sont rassemblés par Salomon, c'est un détail, mais c'est quand même intéressant de savoir que derrière tout ça, si on est en cohérence avec le reste de l'écriture, on est sur un travail de sape de l'ennemi pour le serviteur qui était le plus sage devant Dieu. Et Salomon nous donne lui-même la réponse, hein, dans le passage que Joël a étudié la semaine dernière, pardon, il n'y a point d'homme qui ne pêche, chapitre 8, verset 43. Donc en fait, le sort de Salomon ne devrait pas nous étonner, c'est un homme. Et il a péché. Alors, ça nous renvoie à un passage vertigineux de l'épître aux Romains, je ne lirai pas complètement, mais qui va complètement dans le sens de cette démonstration. Paul qui dit « Car je sais que le bien n'habite point en moi », je commence à la lecture à partir du verset 18, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà la démonstration de la vie de Salomon. Le meilleur d'entre nous, le plus sage d'entre tous, qui reste un homme pécheur. C'est le plus sage, mais c'est un homme. Et quelque part, c'est à ce moment-là que Salomon devient l'instrument de la pédagogie divine. On a rappelé le motif littéraire des rois, à savoir, il faut montrer l'échec de la royauté. Un roi ne peut pas vous sauver. En prenant le meilleur des hommes, avec sa trajectoire, on a la démonstration que non seulement un roi ne peut pas nous sauver, mais que même le plus sage de tous les hommes ne peut pas nous sauver, et que lui-même a besoin d'être sauvé. D'où le titre un peu provocateur. Il ne s'agit pas de trancher, de savoir s'il faut sauver Salomon. Faut-il sauver Salomon ? Ce n'est pas oui ou non. C'est oui, il va falloir le sauver, parce que lui aussi est un homme pécheur. Lui aussi a besoin absolument d'un sauveur. Donc, j'aimerais terminer sur cette idée-là, que le cœur de Salomon peut être détourné. Mais devant le cœur, le cœur des hommes, pardon, peut être détourné, mais devant le cœur infidèle des hommes, on a le cœur fidèle de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit ? Puisque tout ça nous montre quand même quelque chose de Dieu, que Dieu a tenu sa promesse sur la prospérité, sur la sagesse, sur la richesse, que Dieu a averti Salomon plusieurs fois, il lui a paru deux fois et une troisième fois au chapitre 11, que Dieu a retenu sa main dans la sanction, pourquoi ? Par amour pour David, c'est dit trois fois, par amour. Donc la force qui prévaut, c'est celle de l'amour, et on voit Dieu aussi qui prépare la succession avec Jéroboam, avec Roboam, qui préserve la fin du règne de Salomon malgré l'indignité dont il a fait preuve. Voilà, notre cœur peut être dévié, on peut être amené à tolérer l'abominable, ça pourrait nous remplir de désespoir de voir que même le plus sage d'entre nous a échoué. Dieu nous dit, ça doit nous remplir d'espoir, il avait besoin d'un sauveur, nous avons besoin d'un sauveur. Et la grâce de Dieu devient absolument nécessaire. J'aurais voulu vous lire le psaume 72, on le fera peut-être une autre fois, mais dans ce psaume de Salomon, la grâce affleure à un moment donné. Donc c'est un psaume de David, à l'intention de Salomon, pardon, même si contrairement à ce que dit le paratexte, je vous invite à voir juste ce petit verset qui va dans ce sens-là. Tous les rois se prosterneront devant lui, donc David qui parle potentiellement d'après cette interprétation de Salomon, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie, l'affligé qui est sans aide, il aura pitié du misérable et du pauvre, il sauvera les âmes des malheureux, il rachètera leur âme de l'oppression et de la violence, et leur sang sera précieux devant ses yeux. David parle de Salomon, mais en fait il parle surtout par anticipation de notre Sauveur Jésus. Je vous remercie de votre attention. Merci.